Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka ohanu, et bienvenue dans cette 20e émission.
Édition 2023.
La dernière fois, nous avions survolé la période 1800-1813, période de grande sécheresse et de famine, qui fut aussi marquée par le début de la collecte très organisée du santal dans l'archipel. Nous avions aussi vu le rôle important joué par les étrangers beachcombers et écumeurs de grève installés sur place, qui faisaient le lien entre les navires en escale et les chefs locaux. En 1804, les deux ennemis, Joseph Cabri le français et Edward Roberts l'anglais, sont là pour accueillir les deux navires russes envoyés par l'empereur Alexandre Ier afin de réaliser un tour du monde de découverte. Le 10 mai, fait escale à Nukuhiva le Nadesha du capitaine russe Adam von Krusenstern. Il est suivi du Neva de Yuri Lysianski. À leur bord, deux dessinateurs, Orlov et Tilesius, ainsi que le célèbre médecin von Langsdorff. Ils repartiront le 17 avec une documentation importante et des objets traditionnels. Krusenstern ne visite que Nukuhiva et laissera un journal très détaillé de son séjour. Les artistes à bord feront des portraits des marquisiens et des dessins de Mehae qui nous sont aujourd'hui très précieux. En capitaine consciencieux, il rédige aussi un journal dont le titre est « Voyage autour du monde » fait dans les années 1803 et 1806 par Adam Johann von Krusenstern, dont la traduction française paraîtra en 1821. Ce n'est pas le passage de Krusenstern qui est important pour nous. Ce sont les notes qu'il a prises qui vont nous permettre de connaître un peu mieux les Enana de l'ancien temps. Ce sont des notes qui vont nous permettre de suivre au jour le jour ses contacts avec eux, et ce sont ces détails que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Le 7 mai 1804, Krusenstern arrive devant la baie du contrôleur venant du sud, mais il ne fait que passer sans pouvoir examiner la baie. À 11h, une pirogue vient à leur rencontre. À bord, 8 rameurs et l'anglais Edward Roberts, qui montre à Krusenstern des certificats rédigés par des capitaines qu'il a aidés. Roberts raconte les raisons de sa présence à Nukuhiva. À midi, Krusenstern mouille dans l'est de la baie de Taiohae et au large de Hakapehi, à l'est du Mount Tuhiva, la colline qui se dresse au-dessus du petit quai de Taiohae. Dès leur arrivée, les Russes sont entourés de centaines d'insulaires qui leur offrent des cocos, des mets, des fruits de l'arbre à pin et des bananes. En échange, Krusenstern offre des morceaux de vieux cerceaux de barrique de 5 pouces de longueur, soit près de 13 cm qui font à peu près 3 cm de large. Il en avait fait provision avant son départ. Un de ces morceaux est le prix de 5 cocos ou de 3 ou 4 mei. Dans une prochaine émission traitant du passage de Porter, en 1813, nous verrons ces mêmes morceaux de cerceaux de fer donnés en récompense ou échangés. On sait que les marquisiens les utilisaient pour faire des herminettes, des lames d'herminettes, puisque le métal n'avait plus qu'à être poli, aiguisé, emmanché, il était prêt à servir. On pourrait se demander comment Krusenstern avait deviné que les marquisiens seraient heureux de recevoir des morceaux de cerceaux de barrique en fer comme cadeau. En fait, la réponse se trouve dans le journal du capitaine Cook, qui, au cours des années 1770, avait fait escale dans de nombreuses îles du Pacifique, où il avait, le premier, utilisé cette monnaie d'échange. Les Russes avaient lu le journal de Cook, et ils avaient apporté avec eux des centaines de vieux cerceaux de barrique en fer. À 16h, le même jour, le jour de l'arrivée, le chef de la vallée monte à bord avec sa suite. Krusenstern dit qu'il se nomme Tapi Ika Kiatonui et qu'il a 40 ou 45 ans, qu'il est bien fait, le cou épais, le teint brun presque noir tatoué de partout. Il porte un hami hiapo, un pagne de tapa brun rougeâtre, fabriquée avec de l'écorce de jeune banyan. Nous avons déjà vu que ce genre de pagne était réservé au chef ou à son fils aîné.
Krusenstern lui offre une belle pièce d'étoffe rouge longue de 20 aulnes, c'est-à-dire près de 23 mètres, dont Kiatonui s'enveloppe les hanches. Le rouge, c'est tout ce qu'il lui fallait. Robarth lui conseille de ne pas être aussi généreux et lui dit qu'il ne recevra rien en échange. Robarth connaît bien les marquisiens de l'époque. Le cadeau n'engage que celui qui donne. Il n'engage pas celui qui reçoit. Kiatonui est fasciné par un petit perroquet vert et rouge du Brésil dans une cage et Krusenstern lui donne, mais demande un porc en échange qu'il recevra le lendemain. Donc, un perroquet contre un porc. Avec Kiatonui se trouve Mawa Teii, appelé aussi Teii Moea ou Moetai, qui est le mari de Tahiatapu, sa fille aînée. Krusenstern dit qu'il est venu tous les jours à bord et que c'est un des plus beaux hommes de la vallée et qu'il est le seul à toujours porter une cape kahu sur les épaules. Après le départ des hommes, une centaine de femmes continuent à nager autour du navire et à la nuit tombante, Krusenstern les laisse monter à bord, mais il ne les acceptera plus le lendemain. Il pense qu'elles ne viennent que parce que leur père et leur mari les forcent pour obtenir par elles du fer et d'autres bagatelles.
Thank you.
Le lendemain, le 8 mai à 7h du matin, Kiatonu est de retour avec sa famille. Il monte à bord. Avec eux, des centaines d'insulaires sont venus en pirogue pour vendre au navire des cocos, des bananes et des fruits de l'arbre à pain à Mei. Kruzenstern offre des cadeaux à chacune des personnes. Kiatonu est très impressionné par le portrait de la femme de Kruzenstern dans un tableau et passe des heures devant un grand miroir dans la cabine du commandant. Au départ de Kiatonu, Kruzenstern fait tirer le canon en son honneur et hisser un drapeau rouge, signe de tapu pour éloigner les autres insulaires. À 10h, tous descendent à terre, accompagnés d'hommes en armes. Robarts et Cabri sont avec eux.
Ils sont accueillis par Puakahuhu,
oncle paternel de Kiatonui, qui vit désormais
avec Putahai'i, la mère de ce dernier.
Il remplace ainsi son frère aîné, Timauteihi, perdu en mer et premier mari de Putahai'i. Ils se rendent dans une longue maison étroite, toute proche, où ils retrouvent Putahai'i, accompagnée d'autres femmes, dont la fille de Kiatonui. Peut-être Tahiatapu, 24 ans, et sa belle-fille, peut-être Hina Teiani ou Tahiatutuaki, épouse de
Tuitou, premier garçon et quatrième enfant de Kiatonu.
Les deux étant les parents de Pakauotei. Kruzenstern leur fait cadeau de boutons, de couteaux, de ciseaux et autres bagatelles qui semblent moins les intéresser que les étrangers qui accompagnent Kruzenstern. Voilà ce que nous dit Kruzenstern de toutes les femmes qu'il voit. Et qui sont de la famille de Kiatonui, des princesses en quelque sorte. Elles étaient toutes enveloppées d'une étoffe jaune. Leur corps, que l'enveloppe jaune ne cachait pas entièrement, n'était ni peint ni tatoué. Elles n'avaient de tatoué en noir et en jaune que la moitié du bras et la main. Nous savons bien que cette étoffe, c'est du tapa. Nous savons aussi qu'elle est jaune parce qu'elle est enduite d'huile de coco mêlée de curcuma cuit au four, le ikamour. C'est une des raisons pour laquelle le jaune est une des trois couleurs du drapeau marquisien actuel. Le jaune, c'est la couleur des vêtements de la classe des chefs, mais aussi de la fête, koika, et donc de la joie. C'est ainsi qu'un symbole ancien peut se voir tous les jours flottant devant les bâtiments officiels de l'archipel. Après quoi, avec Kiatonui, à 15 pas de la première habitation, Kruzenstern se rend dans une maison où il n'y a que des hommes. C'est la fameuse maison Tap, ou Pai Pai Tap. Ils se couchent sur des nattes et on leur offre un peu d'eau, des bananes et des cocos. Ils rentrent au navire à midi, après quoi Kruzenstern renvoie la chaloupe avec des tonneaux vides afin de faire de l'eau. La chaloupe rentre 3 heures après et Kruzenstern explique que c'est grâce aux Enana qui savent bien nager et qui peuvent facilement franchir le ressac de la plage. Sinon, les marins russes n'auraient pas pu, avec leur baleinière tout seuls, franchir ce ressac et aller chercher de l'eau.
En effet, à cette époque-là, les marins ne savaient pas nager, pas plus les marins russes que les marins anglais ou les marins américains, comme nous le verrons à plusieurs reprises dans les émissions suivantes.
Le fait que les marquisiens aident les Russes à faire accoster les baleinières sur la plage aide beaucoup les marins russes et du coup ils peuvent faire 3 voyages par jour pour récupérer des tonneaux d'eau. Et Kruzenstern remercie les marquisiens, les Enana, avec des morceaux de cerceau de fer, comme il l'avait déjà fait tout à fait au début.
Il existe 2 aquarelles émouvantes exécutées par un des officiers du bord et qui représentent pour l'une la scène des tonneaux dans le ressac et pour l'autre la distribution des cerceaux de fer. On peut retrouver ces 2 aquarelles dans le journal d'Edward Robarts publié en septembre 2018 aux éditions Haerepo. En effet, c'est Robarts lui-même qui, après avoir guidé les 2 navires au mouillage, est chargé par Kruzenstern d'organiser la collecte de vivres et d'eau potable, probablement à l'embouchure de la rivière Vaitu qui descend de Hikohei à Taiohae.
Kruzenstern se plaint de ne pas pouvoir obtenir de porc, seulement 2 en 3 jours, dont celui échangé contre le perroquet et un autre contre une grande hache. Le 10 mai, le second navire, la Neva, est annoncé. Le 12 mai, Kiatonui est à bord, où il avait passé la matinée à se faire raser et laver. Dans les émissions traitant du tapu, sur le corps en général, et sur la personne du chef en particulier, nous avions compris son intouchabilité. Et là, nous voyons le grand Kiatonui se laisser laver et raser par des inconnus. Quelle preuve de pragmatisme marquisien! Devant les étrangers, les tapus sautent comme par enchantement, afin de faciliter les contacts, ces contacts qui seront pourtant mortels. Après avoir quitté le navire, Kiatonui était revenu 1 heure après avec un homme qui voulait échanger un porc contre un autre perroquet. N'obtenant pas satisfaction, l'homme était reparti, mais il annonçait partout que Kiato Nui était prisonnier sur le bateau, ce qui avait provoqué la mobilisation générale à terre que tout le monde pouvait voir depuis le navire en se demandant ce qui se passait. En fait, Kiato Nui est toujours sur le bateau où il reste encore une heure, puis rentre tranquillement à terre et calme les esprits. Mais il a compris qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est là que Krusenstern écrit dans son journal, « Après l'incident, Kiato Nui revint à bord avec une plante de poivrier, kava, donc un pied de kava, qu'il me présenta en signe de paix. Mais il ne le fit qu'avec un air très marqué de regret, au point qu'une demi-heure après, il me pria de lui rendre puisque je n'en faisais aucun usage. » Cet épisode amusant nous renseigne un peu sur la notion de cadeau dans le monde Enana ancien. On te fait un cadeau, si tu n'en sers pas, on le reprend. Il démontre à nouveau le pragmatisme du chef Kiato Nui qui, voyant Krusenstern ne rien faire avec le plan de Kava, lui fait comprendre en quelque sorte « Si tu ne t'en sers pas, j'en ai besoin, je le reprends. » C'est probablement de ce jour-là que datent deux aquarelles représentant Kiato Nui. La première, approchant du navire sur une pirogue au large de Kapehi et Tuhiva, tenant le fameux plan de Kava à la main, en signe de paix. La deuxième, de plein pied, debout, toujours un plan de Kava à la main. Ce sont les premiers et peut-être les seuls portraits de Kiato Nui que nous ayons à disposition. Les autres artistes présents nous ont laissé de meilleurs portraits d'autres personnes, peut-être de Kiato Nui, mais ils n'ont pas dit que c'était Kiato Nui. Ils nous ont aussi laissé des dessins très célèbres, comme celui du jeune guerrier Toa vu de dos, regardant la mer, arborant un tatouage non terminé, tenant une lance dans la main droite et portant un crâne dans la main gauche, un crâne comme un petit panier dont sortent deux dents de cochon. C'est un dessin que tout le monde connaît aux Marquises, qui est imprimé sur de nombreux documents, des paréos et aussi du tape. Pour connaître la suite et la fin du séjour de Krusenstern et visiter avec lui la vallée Meao de Taiohae, ainsi que la vallée de Hakaui telles qu'elles étaient en 1804, ne manquez surtout pas la prochaine émission. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Teeo et sur mon site internet teeo.com. Et merci à Rataro pour sa chanson Uahuna, qui vante les mérites et la beauté de l'île de Uahuka. Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai, o oaiho.